Il est 8h22 à Paris sur RFI. C'est l'heure de la revue de presse de François-Xavier Freland. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Et à la une des hebdos, la présidentielle déjà au cœur des universités d'été des différents partis politiques en France.
Et oui, à gauche comme à droite, on ne pense qu'à ça, même si on s'en défend. Et pour l'occasion, le journal du dimanche publie un sondage IFOP réalisé fin août auprès de sympathisants de gauche et de droite. Et surprise ou pas, ce sont les outsiders qui mènent les débats. Chez les sympathisants de gauche, Manuel Valls arrive en tête avec 35% d'opinion favorable et notamment 45% chez les sympathisants du PS, juste devant Martine Aubry, 28%, et François Hollande en troisième position à 22%. Chez les sympathisants de la droite et du centre, Juppé décolle à 40% d'opinion favorable devant Nicolas Sarkozy, qui en rassemble quand même 35%, bien loin devant Bruno Le Maire à 14% et François Fillon à 11%. Qui aurait imaginé, il y a quelques mois, que le maire de Bordeaux serait toujours en course en cette rentrée de septembre et conduirait même le peloton, se demande le journal du dimanche, même si rien n'est joué à droite, puisque Juppé ne devance Nicolas Sarkozy que de 5 points et que l'ancien président est plébiscité chez les sympathisants républicains avec plus de 52% d'opinion favorable. Quant à gauche, le fait que Valls soit loyal à Hollande jouerait pour lui, selon le JDD, même si jamais le président ne se représente pas, beaucoup seront tentés à gauche comme au centre de voter pour celui qui fait figure de fédérateur éprouvé, Manuel Valls. Donc, analyse l'hebdo. À lire aussi dans ces pages un entretien fleuve de Jean-Pierre Chevènement, l'ancien ministre de l'Intérieur, présent à l'université d'été du mouvement Debout la France, du souverainiste de droite Nicolas Dupont-Aignan. Il ne faut pas supprimer le cordon sanitaire qui écarte les responsables du FN de l'espace politique républicain, dit-il dans le JDD, avant d'ajouter « Mais je ne pense pas que l'on puisse sortir la France de l'ornière si on ne rassemble pas les républicains des deux rives. »
Le Parisien, justement, s'arrête pour sa part sur ce qu'il appelle la rentrée musclée de Marine Le Pen.
Les femmes de la famille Le Pen ont fait hier leur rentrée politique avec le même souci, parler d'autre chose que de la saga familiale, a constaté le Parisien. Elles ont évité de revenir sur le cas douloureux du patriarche Jean-Marie Le Pen, donc évincé du parti le 20 août dernier, à Brachet hier. Marine Le Pen s'est réappropriée quand même clairement les thèmes de prédilection de son père. Terrorisme, impuissance européenne, crise migratoire, sans oublier des tacles à gauche et à droite. Elle a passé au karcher tout l'arc politique, s'amuse le Parisien. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Emmanuel Valls, avec mention spéciale pour François Hollande. Ce dernier a même été traité de président feignant.
Le Monde, ce week-end, revient sur l'épidémie Ebola à travers le regard d'un photographe.
Le Monde appelle les clichés du courageux photographe australien du New York Times, Daniel Berehulak, les images de mort et d'espoir. Ce sont des portraits, pour la plupart, de personnel soignant, de malades pris durant les 4 séjours successifs qu'il a passés, soit 103 jours en tout, au Libéria, lors du pic de l'épidémie Ebola. Ces photos sont exposées actuellement au Festival de Perpignan, Visa pour l'image. Alors celle publiée dans Le Monde résume un peu tout son travail. On y voit au milieu d'une rue de la ville de Swakopo, à côté d'une ambulance, deux infirmiers. L'un, ganté mais en petite chemisette, semble désinfecter le sol. L'autre, protégé par sa combinaison blanche des pieds à la tête, porte à bout de bras vers l'ambulance une petite fille atteinte du virus, sans doute pour la mettre en isolement. Elle semble apeurée face au regard de la foule autour. Heureusement, cette fillette s'en est sortie, mais les survivants étaient rares, selon Daniel Berehulak, qui témoigne dans Le Monde de sa peur paranoïaque durant ses séjours. Il faut être constamment sur ses gardes, se souvient-il, car le virus est totalement invisible. C'est quand la routine s'installe que vous devenez vulnérable. Daniel Berehulak revient sur sa décision de couvrir Ebola et déplore le manque de volontaires. Tout le monde avait peur et ne parlait que de frais d'assurance, de couverture médicale, du coût du rapatriement, se souvient quand un conflit éclate, toute la communauté des journalistes indépendants se retrouve sur le terrain. Mais là, personne ne voulait venir, s'indigne même Daniel Berehulak dans Le Monde.
L'Obs publie une série de photos d'un amoureux du Pérou.
Manuel Castro Prieto a parcouru ce pays avec tendresse durant 10 ans, lit-on. On découvre des photos étonnantes dans l'Obs, dont plusieurs portraits de ses habitants des Andes, au chapeau melon et visage buriné par le soleil, mais la photo qui retient le plus l'attention, c'est celle d'un vieil avion qu'il intitule l'avion Pampa, abandonné en haut d'une colline. Aujourd'hui, il ne reste qu'une carcasse en assez bon état. Les fenêtres, les portes ont été pillées. Plus étonnant, on n'a jamais retrouvé les passagers de ce vol disparu mystérieusement. Certains les soupçonnèrent d'être des trafiquants de drogue. Un voyage photographique très poétique à découvrir dans l'Obs cette semaine.
Et le Courrier International publie, lui, c'est moins poétique, la carte des 20 plus grands centres commerciaux du monde.
Oui, c'est un tour du monde original auquel nous convie l'hebdo. Le plus grand centre commercial du monde se trouve à Dongguan, en Chine. Il possède 2350 boutiques. Sa surface équivaut à 92 terrains de football. La plupart d'ailleurs des grands centres commerciaux sont concentrés en Asie, surtout du Sud-Est. Mais un peu plus à l'Ouest, l'Iran arrive en 5e et 7e position. Les États-Unis, qui ont pourtant créé le premier centre commercial entièrement fermé à Appleton, dans le Wisconsin, en 1955, n'est même pas dans ce ranking. Il y a quand même un mall canadien qui figure en 12e position. L'Europe, quant à elle, n'est pas représentée sur cette carte des plus grands centres commerciaux du monde, publié par le Courrier International.
Le difficile art d'être heureux, c'est un des dossiers du Figaro Magazine ce week-end.
Le bonheur est-il possible, interroge le Figaro Magazine, qui est allé poser la question à trois personnalités. Le philosophe François-Xavier Bellamy nous confirme quelque chose. Les sociétés occidentales, qui jouissent d'un confort inédit dans l'histoire humaine, produisent du malheur à grande échelle. Et la société française bat tous les records en matière de consommation d'antidépresseurs. Le moine bouddhiste Mathieu Ricard estime pour sa part que l'amour altruiste s'avère être la meilleure manière de s'épanouir dans l'existence. Quant à l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, il nous rappelle dans le Figaro Magazine cette chose toute simple et si vraie, chercher à tout prix le bonheur est le plus sûr moyen d'être malheureux.
Merci François-Xavier Frelon.